Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Alors c'est une région dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant elle est au cœur d'un conflit vieux de plus de près de 30 ans. Et à nouveau depuis hier, la situation dans le Haut-Karabakh fait les gros titres de l'actualité internationale. Le Haut-Karabakh, donc région séparatiste de l'ouest de l'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens, donc Arménie et Azerbaïdjan, voilà donc les deux parties dans ce conflit qui tout ce week-end se sont rejetés la responsabilité de ce regain de tension. Mais les puissances voisines se mêlent à ce conflit, Turquie et Russie. Alors est-ce qu'il faut craindre une propagation de la violence? Quelles sont les clés de la résolution de ce conflit? Voilà les questions que l'on va aborder pendant 20 minutes dans Décryptage. Et on va le faire avec notre invité, Gaïtz Minassian. Bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, journaliste au Monde. Première question, Gaïtz Minassian, est-ce que vous pouvez nous situer le Haut-Karabakh? Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'auditeurs qui ont peut-être découvert cette région ce week-end. Où est-ce que ça se trouve? Qui sont ses habitants?
Alors, le Haut-Karabakh se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, et donc à l'intersection de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Ce qu'on appelle le Caucase du Sud, c'est-à-dire ces trois pays souverains, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, sont en fait appartiennent à un même espace qui s'appelle le Caucase du Sud, qui lui-même a été sous l'emprise, sous la tutelle des empires, c'est-à-dire à la fois russes ou successivement russes, iraniens, ottomans ou inversement. Surtout inversement. Et donc, point d'intersection de ces trois empires, difficulté avec le reflux des empires de créer trois souverainetés homogènes ou, je dirais, stables, puisqu'on a transformé des frontières administratives en frontières politiques.
Alors, c'était dans quelles années?
Ben, c'est à partir de la chute de l'Empire russe, la chute de l'Empire ottoman. Donc, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a eu trois indépendances qui se sont créées. Le conflit du Karabakh a commencé à ce moment-là, même avant, mais disons, dans la période contemporaine, à ce moment-là. Et dans la période très contemporaine, c'est depuis la chute de l'Union soviétique, puisque...
Donc en 91.
En 91, puisque... Que s'est-il passé à l'époque soviétique? Eh bien, Staline, pour satisfaire le nationalisme turco-azerbaïdjanais, a cassé les nationalismes locaux et a donné le Karabakh à l'Azerbaïdjan.
Mmh. C'est toujours la situation qui prédomine aujourd'hui.
Dès que les Arméniens du Haut-Karabakh, majoritairement présents dans l'enclave, dans la province, ont vu que Moscou libéralisait son régime, ils ont demandé à se rattacher à l'Arménie soviétique.
Mais aujourd'hui, le Haut-Karabakh est toujours attaché à l'Azerbaïdjan et peuplé majoritairement d'Arméniens, en gros, c'est
alors,
ça?
Alors, non. Au moment de la chute de l'Union soviétique, le Karabakh a proclamé son indépendance, l'Azerbaïdjan aussi. C'est-à-dire que pour les Arméniens du Karabakh, ils ne se reconnaissent pas dans l'Azerbaïdjan indépendant, puisqu'il n'existe pas.
Sauf que cette indépendance n'est pas reconnue.
Et justement. Et les Arméniens du Karabakh, au nom du droit à l'autodétermination, se disent « nous sommes dans notre droit de demander notre indépendance, puisque l'Azerbaïdjan indépendant n'existait pas, il était soviétique ». Donc au niveau du droit, il y a débat. Et tout le conflit aujourd'hui, au niveau du droit, oppose deux normes internationales. D'un côté, l'intégrité territoriale, c'est plutôt la position de l'Azerbaïdjan. Et de l'autre côté, le droit à l'autodétermination, c'est plutôt la thèse arménienne.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de région autoproclamée.
Voilà, par exemple, puisqu'elle n'est pas reconnue par le moindre État, à commencer par l'Arménie, qui veut donner une chance à la paix, et qui joue cette carte du conflit infra-étatique, c'est-à-dire entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh, et non pas interétatique, c'est-à-dire, comme le voudrait Bakou, c'est-à-dire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et c'est peut-être compliqué, mais c'est important de bien nommer les choses, parce que on s'arrache les cheveux si on ne comprend pas cette double lecture du conflit. Pour Bakou, c'est un conflit entre deux États, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour les Arméniens, c'est un conflit entre une province qui veut s'autodéterminer et l'Azerbaïdjan. Et c'est pour ça que le cessez-le-feu qui a été signé en 94, à l'issue de 4 ans de guerre, entre 90 et 94, remporté par les Arméniens, mais pas transformé, la victoire n'a pas été transformée sur le plan politique, puisqu'il n'y a pas eu de reconnaissance du Karabakh. Le cessez-le-feu signé en mai 94 est signé entre Bakou, Erevan pour l'Arménie, et Stepanakert pour le Haut-Karabakh. Donc, c'est à partir du moment où vous avez eu la signature des autorités de facto indépendante du Karabakh qu'il y a eu la paix. Enfin la paix. Trêve.
De la trêve.
De cesser le feu.
Un cessez-le-feu qui est régulièrement violé, on l'a encore vu.
Voilà,
donc ce week-end, avec le retour de la violence donc dans ce Haut-Karabakh, violence qui continue encore ce lundi, c'est difficile d'établir des bilans précis. Plus de 60 personnes tuées ce week-end et encore aujourd'hui au total. On va écouter le témoignage d'une habitante de Stepanakert, vous l'avez dit, c'est la capitale du Haut-Karabakh. Et elle raconte la reprise de la guerre, selon le mot qu'elle utilise.
On était tous réveillés par les bombardements. Je suis tout de suite sortie dans le balcon pour comprendre ce qui s'est passé et j'ai fini par comprendre que c'était la guerre. Avec la famille, on est tous descendus dans les sous-sols. Puis on a entendu parler que des attaques de grandes envergures étaient lancées par l'Azerbaïdjan sur toute la ligne de contact. La capitale était également bombardée. Mon voisin, par exemple, qui a 30 ans, il a reçu une blessure lorsqu'il allait au travail. On est tous préoccupés et on s'interroge toujours depuis très très longtemps jusqu'à quand on doit vivre cette situation.
Voilà, Nelly Avanessian, habitante de la capitale du Haut-Karabakh, témoignage recueilli par Muriel Paradon. Gaïtz Minassian, notre invité ce soir. Pourquoi ce conflit a été relancé ce week-end? Vous avez évoqué le cessez-le-feu, donc 94. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce regain de tension qui arrive très régulièrement depuis 94? Mais pourquoi ce week-end? Qu'est-ce qui a été la poudrière?
Il y a deux dynamiques parallèles. La première, c'est qu'en fait, vous avez parlé du cessez-le-feu et donc de la mise en place d'un processus de négociation, d'un processus diplomatique. Il ne donne aucun résultat. Le groupe de Minsk, chargé par l'OSCE...
Le
groupe de médiateurs qui s'appelle le groupe de Minsk est coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, ce groupe de Minsk dépend de l'OSCE, qui elle-même a été mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour rétablir la paix. Ce groupe de Minsk multiplie les initiatives dans la région pour obtenir un renforcement de la paix. Ça ne marche pas trop. On voit qu'il n'y a pas de résultat sur le terrain, parce que, je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, c'est deux nationalismes qui s'opposent. Et quand l'un dit oui à une proposition de paix, l'autre dit non, et inversement.
Et ce groupe de Minsk qui existe depuis 92,
depuis donc 92,
on est dans un conflit larvé depuis 92.
Voilà, en gros. À côté de ce processus, il y en a un autre qui a fait éruption depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois, c'est l'intervention de la Turquie. La Turquie qui, après être intervenue en Syrie, puis en Libye, cherche à ouvrir un troisième front dans le Caucase. Et partant du principe en Turquie qu'on peut trouver langue avec la Russie parce qu'il y a un intérêt commun, c'est de se mettre à dos, finalement, l'Occident, s'en prendre à l'Occident, eh bien on peut trouver langue. On peut trouver un terrain d'entente avec Moscou. Et effectivement, Moscou était plutôt sensible à cette rhétorique anti-occidentale, puisque Moscou l'utilisait également. Et donc, il y a eu des tentatives de rapprochement. Et puis, on a vu que les relations étaient en fait assez équivoques entre Russes et Turcs. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Et là, cette fois-ci, c'est plus compliqué pour la Russie. Et plus facile pour la Turquie.
Mais d'un point de vue factuel, parce qu'on va développer le jeu des alliances. D'un point de vue factuel, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce week-end dernier? Parce qu'effectivement, les deux parties se renvoient la responsabilité.
Oui,
en
mais
fait,
justement, entre... l'implication de la Turquie dans cette recrudescence a permis à l'Azerbaïdjan de se sentir fort de ce soutien et de lancer une offensive d'envergure, puisque c'est toute la ligne de front. Et l'Azerbaïdjan son argument, c'est de dire « la paix n'avance pas, je veux débloquer et casser le statu quo ».
Donc c'est l'Azerbaïdjan qui a relancé le conflit ce week-end, parce que côté arménien,
on
dit la même chose.
Les Arméniens n'ont aucun intérêt, l'Arménie n'a aucun intérêt à lancer ce conflit.
Alors justement, il y a un témoignage qui va dans ce sens-là et qui peut vous intéresser, on va l'écouter, c'est la position du représentant du Haut-Karabakh en France. Yohannes Gevorkian, il rejette justement la responsabilité sur l'Azerbaïdjan.
Le Haut-Karabakh n'a rien à gagner en lançant une offensive. Le Haut-Karabakh n'a pas ni intérêt ni les moyens de lancer une offensive contre un Azerbaïdjan qui est armé jusqu'aux dents et qui a aujourd'hui 10 millions d'habitants. Personne ne peut croire que le Haut-Karabakh souhaite la fin de l'Azerbaïdjan. Mais quand vous suivez les déclarations belliqueuses du président azerbaïdjanais, il est clair que le président azerbaïdjanais trouve légitime, en tout cas dans son esprit, c'est légitime de mettre fin à l'existence du Haut-Karabakh.
Mettre fin à l'existence de cette région, c'est la volonté, effectivement, selon vous, de l'Azerbaïdjan aujourd'hui ?
Alors, il y a une rhétorique anti-arménienne qui est en place depuis longtemps en Azerbaïdjan, je pense que ça fait partie de la construction d'identité de l'Azerbaïdjan qui s'est bâtie sur le rejet de l'élément arménien. Tout ce qui relève de l'Arménie en Azerbaïdjan est violemment combattu. Jusqu'au football, lorsque il y a eu la finale Arsenal-Chelsea, je crois, de la Ligue Europa. Du côté d'Arsenal, il devait y avoir un joueur de foot qui s'appelait Mkhitaryan qui devait s'y rendre. Et en fait, il était menacé, lui et ses proches, parce qu'il était d'origine arménienne. Et donc, il n'a pas pu s'y rendre, il n'a pas pu jouer la finale. Ça, c'est juste un petit exemple plus récent qui n'a rien à voir avec la politique.
Bah, finalement, c'est aussi profond que les liens entre la Turquie et l'Arménie, en termes de rejet,
L'Azerbaïdjan et l'Arménie. Vous avez cette idée pan-turque, donc d'une unité culturelle, politique, linguistique entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'idéologie est la même, le rejet de l'identité arménienne, du racisme en Azerbaïdjan, du racisme et institutionnel. Et je pense que les pays du Conseil de l'Europe, l'Union européenne, les ONG devraient se pencher davantage sur l'état du racisme anti-arménien en Azerbaïdjan. Ça ne veut pas dire qu'en Arménie, ce sont des gens tendres, mais je ne pense pas qu'il y ait de racisme à ce point, institutionnel du moins, dans un discours, dans des méthodes, dans des faits qui sont avérés politiquement.
Notre décryptage ce soir sur RFI consacré à la situation dans le Haut-Karabakh après le regain de tension du week-end dernier dans cette région donc séparatiste d'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens. On va évoquer les alliances régionales autour de ce conflit avec vous, Gaïtz Minassian, notre invité, parce qu'elles sont importantes. Vous avez évoqué brièvement, mais c'est important de l'évoquer en détail, le rôle de la Russie, parce qu'il est primordial. Est-ce que c'est la Russie aujourd'hui qui a la main dans ce conflit? Parce que la Russie, on a évoqué un peu la Turquie, on va y revenir, mais la Russie, elle s'entend avec les deux parties.
Alors, la Russie, effectivement, est en meilleure position que n'importe quel autre acteur international pour régler le conflit. Est-ce qu'elle a envie de le régler? C'est une autre question. Est-ce qu'elle a les moyens de le régler? C'est une troisième question. Et avec qui le régler?
Parce qu'elle a beaucoup à perdre en s'entendant plus avec une des deux. Un des deux pays, parce que la Russie est plus proche de l'Arménie, parce qu'il y a une même alliance militaire, ils appartiennent à l'organisation du traité de sécurité collective, et puis il y a des échanges économiques importants entre la Russie et l'Azerbaïdjan avec les hydrocarbures côté
Exactement,
Azerbaïdjan.
Mais vous avez raison d'insister sur la volonté de la Russie d'être bien avec les deux ennemis, avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais ça part de quoi, en fait? Ça part d'une volonté impériale de la part de la Russie qui conçoit encore les rapports avec ses voisins sous la forme de la domination. En gros, tout ce qui est autour de moi doit être vassalisé.
L'héritage de l'URSS.
L'héritage de la Russie, tsariste, avant d'être l'héritage soviétique. Et du côté turc, c'est la même chose. En fait, on a deux diplomaties néo-impériales qui, à la fois, coopèrent contre l'Occident et qui, en même temps, s'affrontent. Et c'est là tout l'enjeu de cette recrudescence du conflit actuellement. C'est que la Russie est face à un dilemme, qui est le suivant. Est-ce que je continue ma rhétorique anti-occidentale avec la Turquie, mais je prends le risque de favoriser l'implantation de la Turquie dans la région, voire même de, entre guillemets, djihadiser le conflit du Karabakh, parce qu'on sait que la Turquie utilise l'instrument des islamistes radicaux dans la région, en Syrie, en Libye et maintenant en Caucase. Et demain, que vont devenir ces djihadistes dispersés en Azerbaïdjan? Ils vont aller où? Tchétchénie, Ingouchie? Donc, je prends le risque de favoriser la Turquie. Dans un autre sens, est-ce que je dois continuer à coopérer avec le groupe de Minsk,
donc
les Français, les Français et les États-Unis, me mettre à dos la Turquie et jouer la carte d'un statu quo dans la région? Donc c'est tout le problème pour Moscou.
On va en tout cas écouter la position du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Il s'est exprimé aujourd'hui et clairement il appelle les Arméniens à quitter la région.
Bölgede Le temps est venu pour que cette crise qui a commencé avec l'occupation du Haut-Karabakh prenne fin. Aussitôt que l'Arménie aura quitté le territoire azerbaïdjanais qu'elle occupe, la région retrouvera la paix et la sérénité. L'Azerbaïdjan, vous avez demandé de résoudre ce problème. À qui appartiennent les territoires sous occupation ? À l'Azerbaïdjan. Estimant que leur décompte était arrivé, l'Azerbaïdjan n'a pas eu d'autre choix que de prendre les choses en main.
Voilà le président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'exprimait il y a quelques heures. Alors on a évoqué la Russie, on a dit que c'était compliqué pour elle de clairement trancher, même si elle a la possibilité de le faire dans ce conflit. Est-ce que la Turquie, donc clairement on l'a dit, soutient de l'Azerbaïdjan dans le conflit, est-ce qu'elle peut faire plus que soutenir, comme il le dit fait. Aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan? Est-ce qu'elle peut intervenir?
Alors,
ça donnerait une dimension clairement régionale.
Vous avez raison, mais elle intervient déjà.
De quelle manière?
Militairement, politiquement, diplomatiquement. Politiquement, c'est une alliance forte entre les deux pays. Diplomatiquement, la Turquie, dès qu'il y a une enceinte internationale, elle défend la thèse de l'Azerbaïdjan. Et militairement, avec une assistance militaire, de l'équipement, des manœuvres conjointes, encore au mois de septembre.
Dans le Haut-Karabakh?
Aux alentours.
Il y a eu des... Mais là, clairement, sur la région, est-ce qu'elle peut envoyer des soldats?
Je pense qu'il y a des conseillers techniques, et c'est prouvé d'ailleurs. Il y a même de l'armement. Donc, qui dit armement dit maintenance. Qui dit maintenance dit salariés, agents techniciens et militaires. Donc,
mais
oui.
Et qui dit soutien de la Turquie dans le Haut-Karabakh dit propagation clairement du conflit?
Bien sûr, mais de toute façon, le conflit est international en soi. Parce qu'en 1993, la Turquie a unilatéralement fermé sa frontière avec l'Arménie, en signe de solidarité avec l'Azerbaïdjan. Le conflit est international en soi parce que vous avez deux États, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui appartiennent à des alliances différentes, vous l'avez évoqué vous-même. Mais l'incandescence de cette croix stratégique, c'est-à-dire l'axe Moscou-Erevan et l'axe Ankara-Bakou, n'est pas aussi aiguë, l'incandescence n'est pas aussi forte qu'auparavant. Et je pense qu'il faut cesser de réfléchir en termes, je dirais, donc de pensée géopolitique classique. Et il faut essayer d'aller voir plus loin, et notamment le jeu de la Russie. Je vous dis, la Russie est gênée aux entournures. Là, récemment, il y a eu une déclaration du secrétaire général de l'OTSC qui ne prend pas position. Il appelle les partis en présence à cesser les hostilités et à retrouver le...
Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'évolution clairement en dehors des parties prenantes, directement prenantes. Ça veut dire que le conflit va encore rester larvé comme il l'est depuis près de 30 ans.
Moi, je pense.
Avec sporadiquement, comme là, on a des regains de tension.
Justement, je pense qu'on est parti sur des tensions sur le long terme, mais avec des accalmies, parce que le facteur turc est intervenu. Et Erdogan n'y va pas avec le dos de la cuillère, vous l'avez entendu. C'est des propos quasiment, c'est des propos d'un leader impérialiste quelque part, qui considère que voilà, les habitants qui vivent là depuis des siècles doivent partir. On a jamais vu ça. On se croit, c'est du nettoyage ethnique, mais c'est le feu vert du nettoyage ethnique, pour pas dire plus, surtout quand ça vient de la Turquie, d'Erdogan. Et de l'autre côté, la Russie. Ne sait pas comment faire avec Ankara et avec Erdogan. Tant que c'était une tension entre la Turquie et l'Occident, Moscou se frottait les mains en se disant c'est bon pour les intérêts de la Russie. Mais maintenant, je pense qu'à Moscou, certains s'interrogent sur une question, est-ce qu'Erdogan est contrôlable ou pas ?
Voilà, on finira avec ces mots. On a bien compris que le conflit risquait d'être larvé encore pendant pas mal d'années en raison de la position clairement de la Turquie et de la Russie. Merci beaucoup Gaïtz Minassian, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, journaliste au Monde, auteur des Sentiers de la Victoire aux éditions Passé Composé. Ce décryptage est maintenant terminé. Hélène Avril était ce soir à la réalisation. Merci à elle. Merci également à Eleonore Crédic qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à la documentation et à la sonothèque de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, c'est le débat du jour.